Votre émission vous est présentée par Nutergia, expert en micronutrition depuis plus de 30 ans. La nutrition et vous, Violaine Chaumont sur Nutri Radio.
Bonjour Violaine.
Bonjour Fabrice.
Ça a été ses vacances?
La blague, j'en rêve de vacances. Non du tout.
Alors,
absolument pas.
Vous êtes occupé en ce moment, vous êtes partout. Vous m'envoyez des messages, des fois vous dites oui, je fais ci, je suis en train de faire ça, je vois avec la presse. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment, Violaine?
Bah rien, je travaille comme beaucoup de personnes.
C'est des journées normales pour vous. Ouais, vous êtes tous hyper actifs, hein. Tous les intervenants sur Nutri Radio, c'est fou, hein, le nombre de projets que vous avez. En tout cas, donc vous allez bien, on est en distanciel, c'est rare, hein, parce que souvent vous êtes en studio Nutri Radio, là on est en distanciel, mais on vous entend bien, sous réserve que les ouvriers à côté de vous ne rejouent pas du marteau-piqueur, c'est bien ça?
Voilà, c'est à peu près ça.
Alors parlez bien fort par contre, parce que le son est un peu faible, je vais pas vous gager. Cette semaine, Violaine, vous avez envie, preuve peut-être que vous avez déjà aussi l'esprit vraiment un peu en vacances, puisque vous voulez nous parler de noix de coco.
Oui, tout à fait. J'avais envie de parler de la noix de coco et puis surtout des différentes utilisations de la noix de coco, sa chair, son huile, son eau, sa farine. Je trouvais que c'était un sujet intéressant, notamment dans ce contexte un petit peu difficile vis-à-vis des approvisionnements en huile de tournesol, de toute la polémique qu'on connaît depuis un certain temps aussi autour de l'huile de palme. Et donc la coco et son huile notamment ont tout un tas d'avantages, d'intérêts et puis correspondent aussi à tout une culture et puis une microéconomie que j'avais envie de mettre en lumière et de mettre en valeur. Donc
bien.
Voilà, c'est le sujet du jour.
C'est le sujet du jour. Alors on va marquer une petite pause, tiens, et puis on va attaquer vraiment le sujet du jour dans un instant, juste après ceci sur Nutri Radio.
La nutrition et vous, Violaine Chaumont sur Nutri Radio.
Violaine Chaumont sur Nutri Radio pour vous parler aujourd'hui de la noix de coco, parce que c'est vrai que même si le mot coco, ça nous fait un peu penser aux vacances, il y a quand même en ce moment des problèmes avec les huiles, l'approvisionnement, on sait que c'est un petit peu compliqué, donc là on va parler de noix de coco sous toutes ses formes et revenir peut-être sur les endroits où on peut s'en procurer. Où est-ce que ça pousse la noix de coco?
Alors la noix de coco, ça pousse dans différents endroits, Fabrice. Alors déjà, la noix de coco, vous la trouvez principalement. Alors quand je parle de la noix de coco, c'est les zones hein, où sont cultivés les cocotiers, qui vont donc produire la noix de coco et qui sont utilisés pour l'industrie cosmétique ou l'industrie agroalimentaire. Ben, c'est principalement l'Inde, l'Indonésie et l'Asie du Sud qui sont pourvoyeurs de noix de coco, parce que à eux trois, ils couvrent quasiment 73%, Fabrice, de la production mondiale. Et puis vous avez d'autres petites zones comme la Polynésie française qui participe aussi à la production mondiale. Bon, la Polynésie française, c'est juste le 32e rang mondial hein, en production de noix de coco, mais ça a quand même sa part. Et donc, c'est dans cette zone-là que vous allez trouver principalement la noix de coco. Alors, il y a juste un point que je voulais vraiment, vraiment rappeler aux auditeurs. C'est vraiment très important pour moi et puis même pour eux. C'est que la noix de coco et l'huile de noix de coco, ce n'est pas à confondre avec l'huile de palme. Hein, ça n'a strictement rien à voir. Et puis, ce qu'il faut vraiment noter, c'est que l'huile de noix de coco... donc la coco, c'est généralement produit par des petits exploitants, par des familles. On n'est pas du tout dans l'exploitation massive et intensive des palmiers pour faire de l'huile de palme. Et juste pour vous donner un petit repère, Fabrice, par exemple en Polynésie française, il faut savoir que la coco, c'est quasiment 8000 familles, 8000 petits exploitants qui s'en occupent. C'est une activité vraiment qui est phare avec la pêche dans cette zone-là. L'activité de la copraculture, hein, c'est le nom qui est donné à la culture des cocotiers et donc la production des noix de coco, est subventionnée par le gouvernement polynésien parce que c'est vraiment la seule source de revenus pour beaucoup de familles. Donc, la noix de coco, l'huile de coco, on va en parler après au niveau des valeurs nutritionnelles, mais d'un point de vue déjà, on va dire géopolitique, écologique, on n'est pas du tout dans la même chose que l'huile de palme. Puis il faut savoir que le cocotier, il pousse partout, hein, dans la terre, dans le sable, donc vous n'avez pas besoin forcément de déforester des forêts entières pour pouvoir le planter. Mais grosso modo, c'est surtout l'Inde et l'Asie qui sont pourvoyeurs de coco et d'huile de coco sur le marché mondial.
D'accord, j'aurais aimé quand même, Violaine, puisque vous parlez de coco, que vous fassiez...
Il y a les Caraïbes.
Mais voilà, j'aurais aimé
aussi
que vous ayez une pensée quand même pour la Martinique notamment.
Oui, non, mais c'est vrai dans mes notes et dans les recherches que j'ai fait parce que j'ai étudié un peu le marché de la noix de coco sur ces dernières années. C'est vrai que les Caraïbes et les Antilles sont notés aussi comme producteurs de coco, mais ils ont d'ailleurs comme la Polynésie et les autres zones mondiales, un gros souci pour suivre la demande, parce que la demande est croissante sur les produits à base d'huile de coco et de coco, que ce soit alimentaire, cosmétique. Et notamment en Caraïbes, j'avais noté qu'ils avaient des grosses difficultés pour suivre la demande. Mais effectivement, vous avez raison, j'aurais dû les mettre en valeur aussi. Mais j'ai un petit penchant pour la Polynésie française.
Oui, je le sais.
J'ai pas pu m'empêcher.
Je le sais bien, je le sais bien. Pour ça que je vous le dis, parce que la Martinique, bientôt numéro 1, vous allez voir son on va marquer une toute petite pause et on va se retrouver dans un tout petit instant. D'ailleurs, vous n'êtes pas la seule à avoir un penchant pour la Polynésie, parce qu'on en a parlé la semaine dernière avec Anne, qui a vécu 4 ans en Polynésie, voyez-vous, à Tahiti. Vous avez des points communs. On va organiser une petite réunion polynésienne avec la musique, ça va être très sympa. Retour justement de cette émission après un peu de musique sur Nutri Radio.
La nutrition et vous, Violaine Chaumont sur Nutri Radio.
Violaine Chaumont sur Nutri Radio, la nutrition et vous, pour tout savoir cette semaine sur la noix de coco. Alors, vous avez parlé de l'intérêt un peu social, du rôle social de la noix de coco par rapport à un contexte géopolitique assez précis. On va maintenant revenir sur les valeurs nutritionnelles, parce que la noix de coco, on peut la consommer sous différentes formes, huile, farine, crue, enfin voilà. Quelles sont les différentes formes nutritionnelles les plus bénéfiques pour nous ?
Voilà, alors on va commencer déjà par la coco crue, hein, celle que vous consommez râpée sous forme sèche, hein, qu'on peut trouver notamment dans les préparations pour apéritifs, ou tout simplement en lamelles aussi, dans des salades de fruits, etc. Alors la coco crue râpée, déjà c'est 47% d'eau. Le reste, quasiment un tiers de sa composition après, ce sont des lipides. C'est un fruit oléagineux qui est extrêmement gras, mais on verra tout à l'heure en parlant de l'huile de coco l'intérêt du type d'acide gras qu'elle contient. Et puis c'est une la noix de coco, elle est très riche en fibres aussi, quasiment 9% de fibres solubles. Donc ça en fait un fruit oléagineux très riche en fibres et très intéressant. Et puis quand vous creusez un peu plus loin, donc on peut s'apercevoir, parce qu'il y a énormément de choses qui sont dites sur la noix de coco, mais quand vous creusez vraiment les valeurs nutritionnelles, effectivement elle est riche en fer, elle est source de phosphore qui intervient dans le métabolisme osseux. Elle est source de potassium, mais par contre, concernant le sodium, le magnésium et le calcium, hein, sur la pulpe de coco fraîche, on n'est pas sur des teneurs extrêmement importantes. Alors, donc, ce que l'on pourrait dire sur la coco crue râpée, donc elle est intéressante pour sa typologie de lipides, on va en parler, pour ses fibres, mais elle est quand même calorique, hein, donc on peut la consommer par plaisir, on peut la consommer pour ses fibres, mais il ne faut pas non plus en abuser et consommer tout le sachet de coco en lamelles, Fabrice, hein, il faut arrêter ça, c'est pas du tout l'objectif quand on veut manger de la noix de coco. Alors ensuite, quand vous passez le stade de la coco crue râpée, vous avez la possibilité d'acheter de l'huile de coco, appelée aussi de l'huile de copra. Alors, comme son nom l'indique, c'est de l'huile, hein. Donc 100% de lipides, 100% des lipides issus de la noix de coco, et principalement des acides gras saturés. Et c'est la raison pour laquelle l'huile de coco, à température ambiante, elle va avoir un aspect crémeux, laiteux. Elle n'est pas du tout liquide, comme pourrait l'être l'huile d'olive ou l'huile de tournesol, qui, elles, sont riches en acides gras polyinsaturés, ce qui explique leur état liquide à température ambiante. Alors, une fois qu'on a dit qu'elle est 100% composée d'huile... de lipides, pardon, parce que c'est de l'huile. Il faut savoir que la typologie des lipides qu'elle contient, donc ça a 86% des acides gras saturés, ce qui est assez rare, hein, pour une huile d'origine végétale. Et parmi ces acides gras saturés, vous avez principalement de l'acide laurique. Et ça, c'est un point qui est très intéressant. On en reparle juste après, où je vais vous faire un petit point sur les dernières données concernant l'acide laurique. Et donc, du coup, cette huile qui est à 86% composée d'acides gras saturés, bien sûr, vous l'utilisez pas en huile d'assaisonnement, hein, elle est trop épaisse, elle est trop riche en acides gras saturés, mais elle peut être utilisée en huile de friture. Vraisemblablement, c'est l'une des huiles qui supporte le plus les températures de friture, et vous pouvez l'utiliser pour faire aussi de la pâtisserie en remplacement de l'huile de palme si vous utilisez cet ingrédient habituellement. Et donc, Fabrice, si on revient à ces acides gras saturés, je vous évoquais juste avant l'intérêt de l'acide laurique, pardon, qui est un acide gras saturé. Il y a plusieurs études qui ont été faites ces derniers temps, des tests expérimentaux qui sembleraient indiquer que si vous avez un régime avec 20% d'huile de coco, vous pouvez augmenter votre production de bon cholestérol, vous savez, le HDL, qui permet d'agir et de prévenir l'artérosclérose. Donc ça, c'est un point qui est important. Et puis, ces acides gras saturés qui sont contenus dans l'huile de coco, ils sont sous forme triglycéride. Alors, sans vouloir faire un cours de chimie, les triglycérides à chaîne moyenne, ce sont des molécules qui sont des associations de molécules de glycérol. donc ils font écho à la glycérine, et des acides gras. Et l'intérêt de ces triglycérides à chaîne moyenne, qu'on abrège par TCM, c'est qu'ils n'ont pas besoin de l'action de la bile ni des sucres pancréatiques pour être absorbés. Donc ils ont une absorption très rapide au niveau de l'organisme. C'est d'ailleurs souvent des sources de lipides qu'on utilise en hôpitaux pour les personnes qui sont atteintes de diarrhée chronique, qui ont des problèmes tels que la rectocolite hémorragique ou les maladies de Crohn ou des problèmes de pancréas. Donc ça en fait une huile qui est facilement digeste, si on devait abréger les choses. Et puis comme vous le savez sans doute Fabrice, dès lors que vous avez des triglycérides à chaîne moyenne facilement absorbables, vous pouvez aussi faciliter l'absorption des vitamines liposolubles, comme la vitamine E que vous pouvez trouver dans l'huile de coco. Donc voilà, et puis... Oui.
Non, pardon, je ne veux pas vous interrompre comme ça, Violaine, sur votre lancée, continuez, c'est très intéressant.
Voilà, et je voulais juste terminer par rapport à l'huile de coco sur le fait qu'il y a aussi des études qui montrent que les triglycérides à chaîne moyenne pourraient avoir une réaction anti-inflammatoire au niveau des intestins. On va en reparler après sur le lait de coco parce que les études sont plus importantes sur le lait de coco. Et puis enfin, on va juste dire que toutes les rumeurs concernant le fait que les triglycérides à chaîne moyenne contenus notamment dans l'huile de coco seraient à prendre en cas de régime minceur, ça n'a pas vraiment de sens. Effectivement, c'est peut-être un peu moins calorique. Effectivement, le corps utilise ces triglycérides prioritairement pour le carburant de l'organisme, mais les études montrent qu'au bout de 15 jours de prise, l'organisme va retrouver ses bonnes vieilles habitudes et gérer les lipides provenant de l'huile de coco comme n'importe quel autre lipide. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir sur l'huile de coco, c'est qu'elle est très intéressante pour la friture et la pâtisserie, très riche en acides gras saturés, notamment l'acide laurique, et que vous pouvez l'utiliser pour venir remplacer donc la pâtisserie et puis la friture. Et c'est une huile intéressante dans tous les cas par rapport à sa typologie d'acide gras.
Bien, mais écoutez, merci pour ces précisions. Le coco sous forme crue, sous forme huileuse et la farine, on y revient dans un instant sur Nutri Radio.
La nutrition et vous, Violaine Chaumont sur Nutri Radio.
Violaine Chaumont sur Nutri Radio pour nous parler de coco aujourd'hui, les valeurs nutritionnelles, très intéressant. Vous nous avez parlé des formes crues, vous avez dit qu'il ne faut pas en abuser forcément.
Oui, c'est riche.
Moi je me souviens quand j'étais plus jeune, mon père me faisait de la... Et chers auditeurs, moment où qui n'est pas intéressant, hein, je vous le dis, parce que mais on partage un peu sa vie, voilà.
Alors que faisait papa?
Il faisait de la confiture de noix de coco qui était très bonne, mais j'imagine que déjà crue, ah, oui. Vous me dites que ce n'est pas hyper intéressant, c'est riche, mais en forme de sous-forme de confiture, je pense
ça
que...
Ça devait ressembler un peu à de la crème de lait, parce que vu la teneur en lipides, c'est pas comme un fruit riche en sucre avec de la pectine, etc. Non, au niveau consistance.
C'était oui, c'était un peu ça. Cette santé, en tout cas la préparation, ça sentait très très bon. Alors, je vous avoue que l'odeur était beaucoup plus appétissante que le goût. C'était pas mauvais, mais l'odeur, c'était vraiment quelque chose de fabuleux.
Faudrait donner la recette à Jenny pour qu'elle essaye.
Voilà, c'est ça. Ouf, ça à mon avis, connaissant Loustic, ça devait être du sucre, de la coco et basta. Elle est pas très loin, à mon avis.
Mais... je savais pas, j'avais pas noté cet usage de la coco
et du rhum évidemment.
Ah bah oui, du rhum, ça c'est pour la conservation.
À consommer sans modération, c'est pour ça qu'on a une enfance très difficile.
Oui, c'est ça.
Allez, on revient sérieux du coup avec vous Violaine, pour nous parler des valeurs nutritionnelles donc de la coco. On avait parlé sous forme crue, sous forme huileuse, et donc il y a aussi la farine de coco.
Oui, mais alors avant même de parler de la farine, je voudrais parler du lait de coco.
Ah bah oui.
Et puis de l'eau de coco. La farine, on va la placer tout en dernier.
Ça marche, ça marche. Pardon.
C'est vraiment le. Non, mais il y a pas de problème. Je ne suis pas psychorigide, c'est juste que ça suit un raisonnement.
Oui, c'est ça. Vous allez voir Violaine à la fin, elle va dire mais qu'est-ce que t'as fait. Non, je rigole, je plaisante.
Perturbe. Donc oui, l'autre état dans lequel on peut consommer la noix de coco, c'est son lait, le lait de coco. Alors le lait de coco, il provient de la première pression de la pulpe de coco, hein, pas la coco verte, mais la coco qui est mature. Et donc c'est un produit qui va contenir principalement de l'eau à 72%, bien évidemment une teneur en lipides qui est importante, hein, quasiment 20%, du sucre, des glucides, à peu près à 3%, et puis vous avez un peu de protéines, mais par contre, ici, pas du tout de fibres. Et puis quand vous analysez la valeur nutritionnelle, parce que pareil, beaucoup de choses sont dites sur le lait de coco, vous avez une bonne teneur en fer, en phosphore, en antioxydants comme le manganèse, le cuivre, vous avez aussi de la vitamine B9, autrement dit les folates, qui sont très intéressantes, et de la vitamine B3. Alors, sans vouloir refaire un cours de nutrition sur chacun de ces nutriments et de ces minéraux. Bon, le fer, c'est quand même important pour tout ce qui peut être hémoglobine. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à des autres fruits ou légumes et puis tout ce qui peut être produit carné, le fer n'est pas très très bien assimilé hein, lorsqu'il provient de la coco. Par contre, le phosphore est très bien assimilé et tous les nutriments comme les antioxydants que sont le manganèse et le cuivre, très bien assimilés aussi. Et pour les vitamines, comme vous le savez, les folates, donc les vitamines B9, interviennent dans le fonctionnement du système nerveux et du système immunitaire, donc c'est tout à fait intéressant. Et la vitamine B3, autrement dit la niacine, participe au métabolisme des glucides, lipides, protéines, pour tout ce qui peut être, comment dirais-je, fabrication de l'énergie pour l'organisme. Mais par contre, il y a deux autres choses qui sont très intéressantes avec le lait de coco et qui proviennent aussi d'études expérimentales qui ont été menées. C'est que déjà, un, les protéines du lait de coco sont beaucoup plus digestes que les protéines de lait de vache. Donc ça, c'est un élément qui est important. Deuxièmement, les études montrent que le lait de coco a vraiment un effet bénéfique sur la muqueuse intestinale. Même des études qui montrent que consommer du lait de coco augmente, alors je vais parler de manière technique, la hauteur villositaire. Vous savez, dans les intestins, Fabrice, vous avez des villosités intestinales qui sont comme des petits picots à l'intérieur des intestins qui vont être le siège de l'absorption des nutriments. Eh bien, quand vous consommez du lait de coco, vous avez tendance, surtout si à l'origine vous avez des allergies aux protéines de lait de vache, si vous avez une inflammation intestinale, le lait de coco vous aidera à restaurer ou à améliorer les surfaces d'absorption des intestins. Donc c'est quand même hyper intéressant. Et puis, dans ces mêmes études expérimentales, il est montré que le lait de coco diminuerait la réaction inflammatoire des personnes qui ont tendance à avoir des allergies aux protéines de lait de vache. Donc le lait de coco, c'est intéressant pour sa teneur en minéraux et vitamines que j'ai cité précédemment, pour la teneur aussi en lipides, hein, 16% de lipides avec un certain nombre, un certain pourcentage d'acides gras saturés comme l'acide laurique, j'en ai voué les avantages juste à présent, mais aussi pour les personnes qui auraient des problèmes au niveau intestinal, avec des problèmes d'absorption, peut-être des intestins poreux, etc. Donc le lait de coco trouve tout son intérêt à ce niveau-là. Voilà.
D'accord.
Et donc...
C'est bon, vous avez terminé sur le lait.
Voilà, là j'ai terminé sur le lait. Non, mais c'est vraiment très intéressant les études qui sont sorties. Et puis le lait de coco maintenant, alors il est un petit peu cher, hein, mais vous pouvez le trouver facilement dans le commerce, aromatisé ou pas aromatisé. Mais ça peut être une bonne alternative pour notamment les adultes qui souhaitent avoir une alternative au lait de vache. Par contre, les teneurs en calcium ne sont pas très importantes, hein, donc ne comptez pas sur le lait de coco pour vous apporter tous vos apports, pour couvrir tous les apports nutritionnels en calcium. C'est pas du tout une source de calcium suffisamment intéressante. Et puis après, il y a l'autre versant qui est l'eau de coco. Vous savez, Fabrice, vous devez savoir ça. L'eau de coco provient de la coco verte.
Ah bah évidemment.
Mature. Bah oui.
Ça c'est évident.
Ça c'est évident. Donc l'eau de coco, elle a plusieurs intérêts. Et puis je vais vous raconter un peu une histoire qui va faire appel à Madonna et Rihanna avec, vous savez, cette marque Vita Coco. C'était à peu près il y a 5-6 ans, il y a eu une publicité monstrueuse sur cette eau de coco en petite brique, avec Rihanna qui faisait la promotion de cette eau comme étant naturellement hydratante, etc. etc. Mais il faut savoir que l'eau de coco, elle est très peu énergétique, hein. Vous avez 15 kilocalories au 100 grammes, donc si vous buvez un bon verre, vous avez 30-35 kilocalories, c'est vraiment pas beaucoup. Par contre, elle est assez riche en sucre, hein. Vous en avez 3%, donc 3 grammes pour 100 grammes, donc si vous buvez un verre, vous avez déjà 6 grammes de sucre. Et après ça, elle a quand même un bon équilibre dans différents électrolytes, magnésium, potassium, sodium, un petit peu de calcium et de phosphore, qui a abouti au fait que beaucoup d'industriels ont essayé de vanter l'eau de coco comme étant un produit parfait après l'effort physique, après une activité physique, un petit peu comme toutes les boissons que l'on peut trouver sur le marché. Vous savez, ces boissons de réhydratation avec des électrolytes quand vous avez fait une session de sport. Alors, c'est plus ou moins vrai quand vous comparez l'eau de coco à ces produits pour sportifs. Le seul vrai intérêt de l'eau de coco par rapport à ces produits-là, c'est qu'elle est beaucoup plus riche en potassium, et comme on le sait, le potassium, il aide à convertir le glucose en glycogène, notamment au niveau des muscles, donc ça permet de recharger les batteries. Après ça, les produits que l'on trouve dans le commerce, ce sont des produits qui sont bien sûr industrialisés, développés exprès pour atteindre un certain nombre d'objectifs nutritionnels, mais au-delà de cette teneur en potassium plus intéressante, l'eau de coco, elle n'est pas forcément à privilégier quand vous faites du sport. Par contre, si c'est l'été, si vous avez besoin de vous hydrater, si vous avez eu, on va dire, un transit accéléré à cause d'un voyage, ça peut être une alternative pour vous hydrater, pour consommer un certain nombre d'électrolytes que vous auriez perdu par différentes manières. Et en plus, elle a un index glycémique qui est relativement faible, donc elle vous fera pas faire des pics de glycémie, et donc elle est assez hydratante. Mais pour les sportifs, voilà, la comparaison s'arrête juste au niveau du potassium. Et si je devais donc rappeler l'histoire de Vita Coco que j'exprimais juste avant.
Alors, ouais. Violaine, on va marquer une pause et vous allez nous rappeler histoire de Vita Coco. Bah, il fait un peu de teasing, un peu de, voilà, un peu de suspense. Juste après, ceci, c'est la dernière partie d'ailleurs de cette émission sur Nutri Radio.
La nutrition et vous, Violaine Chaumont sur Nutri Radio.
Violaine Chaumont sur Nutri Radio qui nous parle de Coco aujourd'hui.
Vous m'avez coupé dans mon histoire.
Et c'est là où j'aime le distanciel, c'est parce que si on était en studio ensemble, vous m'auriez regardé, vous m'auriez dit qu'est-ce que c'est. Et j'aurais même posé vous couper, alors que là c'est sans scrupule. C'est-à-dire que là je ne suis pas impressionné du tout.
Et moi je vois rien venir.
Voilà. Alors, vous vouliez nous parler. Et là, vous avez tout le temps que vous voulez pour nous parler donc de cette histoire de Vita Coco lancée, en tout cas promotionnée, notamment par Rihanna.
Oui, c'était donc il y a à peu près, je pense, 5-10 ans, je ne me souviens plus exactement de la date, mais Vita Coco faisait la promotion d'un certain nombre, d'une certaine concentration en sodium, en potassium, en magnésium. C'était vraiment positionné comme un hydratant naturel et notamment plus hydratant que les produits pour sportifs. Et donc, ils ont été attaqués par un certain nombre de collectifs de consommateurs au Canada et aux États-Unis juste parce que les valeurs nutritionnelles étaient fausses. Hein. L'étiquetage qui était posé sur le produit évoquait des concentration qui n'était pas du tout celle du produit. Et donc, il y a eu toute une affaire sur ça et sur le fait que cette eau de coco ne pouvait pas être positionnée à un niveau égal avec les produits pour sportifs ou meilleur que les produits pour sportifs. Donc, si je rappelle cette histoire-là, c'est que ça fait vraiment écho à ce que je mentionnais juste avant, à savoir que l'eau de coco, elle est intéressante pour s'hydrater, pour avoir un certain nombre d'électrolytes. Elle est plus riche en potassium que la majorité des produits pour le sport. Mais si vous êtes vraiment sur une activité sportive de haut niveau, l'eau de coco, c'est peut-être pas suffisant et nécessaire. Hein. Suffisant surtout à prendre après une activité sportive, ça ne se substitue pas aux produits que vous avez éventuellement l'habitude de prendre. Et puis en plus, les eaux de coco que vous trouvez sur le marché, il faut faire attention parce qu'un certain nombre sont enrichis en sucre et en arômes, etc. Donc, c'est pas forcément l'objectif quand vous consommez de l'eau de coco d'aller vous charger en plus en sucre, en arômes, etc. Et puis, si vous en consommez trop, Fabrice, vous devez savoir ça, l'eau de coco, du fait de sa richesse en potassium, peut entraîner des diarrhées si vous faites une orgie de coco. Et puis, pour d'autres personnes qui seraient plus sensibles au niveau intestinal, du fait des sucres qu'elle contient, et pour faire référence à ma précédente chronique sur les FODMAPs notamment, elle peut entraîner un certain nombre de problèmes de ballonnement puisque les sucres peuvent ne pas être facilement absorbés au niveau intestinal, l'intestin grêle, donc ça peut favoriser des ballonnements. Mais autrement dit, c'est une boisson qui peut être intéressante à consommer avec modération pour vous hydrater l'été ou même l'hiver et vous apporter un certain nombre d'électrolytes. Donc voilà sur l'eau de coco. Et puis pour finir, la farine de coco. La farine de coco qui trouve sa place de plus en plus dans la cuisine. Alors c'est pas du tout comme la farine de blé, déjà elle est sans gluten, donc vous pouvez pas faire du pain avec, hein. Elle a aucun pouvoir de panification. Mais par contre elle est très riche en fibres, elle est très riche en protéines, elle a un indice glycémique très bas, ce qui en fait un avantage par rapport à la farine de blé, mais bien évidemment elle est aussi très grasse. Donc elle peut avoir une charge calorique relativement plus élevée que la farine de blé, mais c'est aussi une alternative assez intéressante pour les gâteaux, et ça n'apporte quasiment pas de goût de coco. Moi j'en utilise souvent dans la fabrication des gaufres, mais néanmoins ça n'apporte pas de goût de coco prononcé pour ceux qui seraient un petit peu sensibles.
Mais vous avez
à ce
raison.
Parfum là.
Mais oui, non, parce que quand ça altère la recette, même si c'est bon, c'est pas ce qu'on attendait, donc c'est bien que la farine là, n'altère pas le goût de la recette finale. C'est
exactement.
Important de le signaler. Merci beaucoup Violaine.
Voilà, Fabrice.
Je vous interromps pas là. Vous avez...
Non, j'ai tout fini. Mais bon, ce que je veux vraiment, juste un petit mot de conclusion. L'huile de coco, la coco, ça se respecte. Hein. C'est quand même un fruit de la nature qui est important, qui est difficile à cultiver, qui répond à quand même beaucoup de de problématiques sociales, etc. Donc ça se respecte, c'est pas à consommer n'importe comment, c'est juste ce que je voulais rajouter.
Le coup de cœur pour la coco de Violaine Chaumont, la coco, ça se respecte, j'aime bien cette phrase, on va la ressortir en jingle.
En t-shirt aussi.
En t-shirt, exactement, vous allez voir, bah, là pour le coup, si vous allez aux Caraïbes avec ça, un t-shirt, si vous faites un petit design sympa à la coco, ça se respecte, vous allez voir le succès fou que vous allez avoir. Allez, retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio, au revoir Violaine, et je vous rappelle que cette émission, vous la retrouvez à partir de dimanche soir hein, en podcast sur nutriradio.fr, dans la partie podcast, sur toutes les plateformes de streaming audio et en téléchargeant l'application Nutri Radio gratuite, que ce soit sur iOS ou sur Android. Retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Au revoir Violaine, à la semaine prochaine.
Au revoir,
la nutrition et vous, Violaine Chaumont sur Nutri Radio.